L'émission que vous allez écouter est une rediffusion.
Salut, ici Ziad Malouf, vous écoutez l'Atelier des médias. Cette semaine, nous explorons un nouveau format qui a vocation, si vous l'acceptez, à se répéter à intervalles réguliers, tous les mois par exemple. Il s'agit d'un tiré à part, ou en d'autres termes, une émission où un journaliste revient sur une de ses enquêtes et nous en raconte les coulisses. Aujourd'hui, Steak Machine avec Geoffrey Le Guilcher.
J'ai 30 ans, bientôt 31 ans.
Il y a 4 ans, Geoffrey Le Guilcher, alors jeune journaliste, décide de quitter son poste au magazine Les Inrecuptibles pour explorer de nouveaux styles narratifs. Il commence alors à collaborer avec plusieurs médias comme 21, Le Canard Enchaîné, Mediapart ou plus récemment Les Jours. Ses expériences développent son goût pour les récits au long cours et avec sa compagne et un ami, il décide il y a quelques mois de lancer une maison d'édition spécialisée dans les plongées, les immersions fictionnelles mais aussi non fictionnelles.
On avait décidé, c'est dans les grandes lignes, de commencer par un livre journalistique. Moi, ça fait un bout de temps que je voulais faire un peu de gonzo. Le gonzo, ça vient d'Hunter Thompson aux États-Unis. Et l'idée, c'est que, en plus de raconter l'histoire à la première personne, on ajoute une dose de subjectivité. C'est-à-dire qu'on assume totalement des points de vue, des réflexions, voire beaucoup plus, parce que Hunter Thompson, c'était quasiment un chaman. Donc lui, quand il partait dans son reportage, en fait, on quittait le reportage et on allait carrément ailleurs avec lui. Bon, ce qui est particulier comme style. Mais l'idée de maintenant ce qu'on appelle le gonzo, un peu détaché de la théorie d'Hunter Thompson, c'est principalement à la première personne, en assumant un peu de subjectivité. Et donc, voilà, du coup, partant de cette idée-là, moi j'avais aussi relu récemment Nelly Bly, qui s'était infiltré 10 jours dans un asile de folle, il y a plus d'un siècle, aux éditions du Sous-Sol, ça m'avait beaucoup parlé, j'avais aimé Aubenas avant, j'ai lu Les Albert Londres, voilà, tout ce type de récits, ou même Joe Sacco en bande dessinée, je suis vraiment un grand fan de la première heure, tous ces récits à la première personne faisaient qu'on s'était dit, bon, non seulement on veut un livre journalistique, mais on veut faire un sujet à la première personne. Ça, c'était le cadre général avant même d'avoir trouvé le sujet sur les abattoirs.
Les abattoirs, le mot est lâché, il va nous occuper jusqu'à la fin de cette émission. Il y a un peu plus d'un an, Geoffrey Le Guilcher a décidé de jouer les journalistes infiltrés dans un de ces lieux méconnus, jalousement gardés, où sont tués les animaux consommés quotidiennement en France. Le sujet n'est pas facile, la démarche n'est pas évidente, elle pose des questions logistiques, pratiques, mais également éthiques, déontologiques, auxquelles se sont confrontées de grandes figures du journalisme, comme la française Florence Aubenas ou l'allemand Günther Wallraff. Geoffrey Le Guilcher a accepté pour l'Atelier des médias de raconter son expérience d'infiltration dans le détail. Une expérience qui a donné lieu à un livre, Steak Machine, publié par les toutes jeunes éditions Goutte d'Or. Restez avec nous pour vivre comme si vous y étiez cette histoire unique.
RFI.
Le tango des bouchers de la Villette, c'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne.
Courant 2016, Geoffrey a donc choisi de vivre une expérience de journaliste immergé, infiltré, cachant son identité. C'est un peu par hasard que sa compagne, Clara Tellier, lui suggère de se faire embaucher dans un abattoir.
Sur le coup, l'idée me paraît ni bonne ni mauvaise, mais je tilte pas, quoi. Je me dis, ouais, bon, pourquoi pas, mais en même temps, voilà, je commence à y réfléchir sans vraiment y réfléchir. Et puis, on commence à en discuter. Là, je me plonge un peu dans le sujet, c'est-à-dire que je fais ce qu'on pourrait appeler une pré-enquête. Je commence à lire tout ce qu'il y a eu sur le sujet, voir ce qui se passe. On avait un peu déjà l'image des vidéos qui arrivaient jusqu'à nous, qui étaient... on voyait tout le temps des actes de cruauté envers les animaux de la part de certains hommes. Des vidéos donc dérobées par l'association L214, qui est une association de défense de la cause animale et qui s'infiltre dans les abattoirs juste pour montrer soit les actes de maltraitance, soit tout ce qui est illégal, ou soit ce qui est légal mais que eux jugent amoral. Voilà.
Avec l'aide de salariés complices et de caméras cachées,
L214 a déjà tourné dans des dizaines d'élevages français. L'association a récolté en 2015 1 million d'euros de dons de citoyens révoltés.
Et donc, à chaque fois qu'on voit des vidéos sortir, c'est vraiment hardcore, quoi. Et ça fait des millions de vues sur Internet. Il y a eu un phénomène de société qui s'est déclenché autour de ça. Ça a déclenché aussi une commission d'enquête parlementaire. Voilà, ça, ils ont amené à l'agenda et médiatique et sociétal un nouveau sujet. Mais en y entrant uniquement par le prisme animal, de la violence faite aux animaux. Et donc, de ce constat, en étudiant le sujet, je me suis dit, en fait, il y a vraiment quelque chose à aller voir par cette infiltration dans un abattoir, c'est de comprendre comment est-ce qu'on en arrive à ces situations où, dès que tu mets une caméra dans un abattoir, t'as l'impression que tu vas avoir des actes de maltraitance. Donc, c'était une sorte de premier feeling après la pré-enquête, de se dire, là, il y a un sujet, tu vois. On sait pas qui bosse dans ces abattoirs, et... Pour le coup, c'est vraiment des boîtes, comme disait le député Olivier Falorni, qui était président de la commission d'enquête parlementaire, c'est plus compliqué de rentrer dans un abattoir que dans un sous-marin nucléaire. C'est des boîtes noires, des blocos. Enfin, il n'avait vraiment pas de mots assez forts pour dire à quel point les abattoirs étaient des lieux tabous et fermés.
Il s'agit de sadisme, de perversité, mais il faut regarder aussi si le problème n'est pas structurel, parce que ça commence à faire beaucoup.
Et donc, ça justifiait en plus le principe de l'infiltration, c'est-à-dire de se déguiser en ouvrier pour rentrer et aller chercher de l'information.
Nous sommes encore au printemps 2016, Geoffrey a son sujet, il veut se faire embaucher incognito dans un abattoir de France, reste à trouver quel abattoir et comment être recruté.
Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a deux types d'abattoirs en France, donc tout ça je le découvre dans la pré-enquête, il y a des abattoirs dits municipaux qui sont de petite taille et il y a des abattoirs industriels.
Municipaux qui ont été beaucoup ciblés par L214 d'ailleurs.
Oui, qui ont été beaucoup ciblés parce qu'en fait, on va dire que les actes de cruauté ou ce que peut créer un outil vétuste, ce qui est le cas souvent des abattoirs municipaux, parce que de réinvestir dans l'outil ça coûte très cher, ils n'ont pas beaucoup de moyens, donc ils tournent souvent avec des outils un peu anciens, créent beaucoup de problèmes et beaucoup de chaos pour les animaux, alors que dans les abattoirs industriels, il y a aussi beaucoup de problèmes, mais disons que c'est pas les mêmes. Donc en étudiant, en voyant qu'il y a ces deux types d'abattoirs, moi j'ai plutôt voulu privilégier un abattoir industriel. Pour moi, je voulais un peu aussi quelque chose qui parle de l'époque, c'est-à-dire qu'on tue 1 milliard d'animaux par an en France, 17 milliards si on ajoute les poissons, mais disons 1 milliard d'animaux. Et du coup, l'idée, c'était de trouver un abattoir qui vient de cette époque, qui vient de notre époque, qui permet d'atteindre ces chiffres faramineux. Donc j'ai visé l'un des plus gros, tout simplement, qui en gros abat 2 millions d'animaux par an, 8500 porcs par jour, 600 vaches par jour. Il fait que des porcs et des vaches. Et je voulais plutôt la Bretagne aussi. J'ai ciblé la Bretagne pour plusieurs raisons. Déjà stratégique, c'est-à-dire que je m'appelle Le Guilcher, j'ai un nom breton, donc je pouvais m'inventer dans mon faux passé un retour sur ma terre natale, même si je suis né en fait à Paris. En tout cas, dans mon faux CV, je prétendais avoir grandi en Bretagne. Et surtout, parce que la Bretagne est la région abattoir de la France, elle emploie 30% des salariés du secteur viande. Donc voilà. Il y a toujours, on arbitre entre, ce qui se dégage du sujet quand on travaille dessus et en même temps, ce qui peut être pratique en termes d'organisation personnelle. Donc, je cible 4 ou 5 gros abattoirs en Bretagne, j'affine sur 2 abattoirs qui n'ont jamais été infiltrés et je décide de prendre le plus moderne. Pourquoi ? Parce que si j'avais voulu prendre le plus trash, ça aurait pas forcément été une mauvaise chose d'ailleurs. Mais on risquait de me dire, évidemment, là l'outil il est plus vieux, vous n'êtes pas allé voir comment ça se passe partout, etc. Alors que là, la différence c'est que c'est beaucoup plus compliqué après dans la défense ou si jamais ce que je trouvais... par rapport à ma pré-enquête, j'imaginais que j'allais trouver des choses très dures, notamment dues aux cadences, notamment dues au travail dans ces structures. Et au moins, c'était à l'état brut. On pouvait pas dire oui, mais là, c'est une exception, etc. Donc c'était ça. Voilà comment j'ai ciblé mon usine.
L'idée de Geoffrey était donc de choisir un abattoir très moderne pour éviter que la vétusté d'un autre lieu serve de prétexte ou de justification naturelle à d'éventuelles découvertes.
C'est ça, je voulais me concentrer sur les méthodes, sur un abattoir qui respecte les normes et la loi, qui n'est pas épinglé et qui surtout fournit une quantité astronomique de viande en tuant une quantité astronomique d'animaux.
Les choix sont maintenant clairs pour Geoffrey Le Guilcher. Il sait où il veut aller, ce qu'il veut creuser, découvrir reste le plus difficile.
Il faut se faire embaucher sans se faire capter. C'est-à-dire, alors, on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'ils iraient chercher un journaliste? Mais en fait, c'est à cause de l'association L214. Moi, j'avais peur qu'en cherchant un militant, ils trouvent un journaliste en googlisant, ou pour pas faire de pub, en entrant dans un moteur de recherche, mon nom, ils trouvent un journaliste. Parce que, évidemment, si tu tapes mon nom, t'as des articles qui sortent. Et donc, du coup, l'idée, c'était d'éviter ça. Et en même temps, comme c'est des boîtes d'intérim qui t'embauchent, il faut donner tes vrais papiers d'identité, il faut donner un numéro de sécu, un numéro de compte en banque. Et la difficulté, on l'a résolue par une petite astuce, c'est que j'ai donné tous mes vrais papiers, mais utilisé mon deuxième prénom. Ce qui fait que, donc qui est Albert et non Geoffrey, et ce qui permet donc grâce à cette association avec mon nom de famille d'être un parfait inconnu sur Internet, et deuxièmement de donner mes vrais papiers. Donc il y a juste l'agence d'intérim qui m'a demandé à un moment donné, mais vous appelez Geoffrey, vous appelez pas Albert. J'ai dit oui, mais depuis que je suis petit, j'utilise mon deuxième prénom. Et donc ils ont dit, ah mais ça peut poser un problème pour le virement bancaire, on va mettre Geoffrey Albert. Et voilà, après une fois que ça c'était réglé, à l'usine, à l'abattoir directement, ils ont eu affaire que à Albert.
On ne connaissait rien de lui, il vivait seul et sans amis. Son visage reflétait l'ennui qui avait dû marquer sa vie. Albert, Albert. Dans toute la ville on connaissait sa silhouette et son carnet. En le voyant, les chauffeurs disaient, c'est Albert, celui qui ne parle jamais. Albert.
L'atelier des médias.
Ce que j'ai compris assez vite, c'est que autant les abattoirs risquent d'être soupçonneux effectivement, mais autant il y a un avantage pour moi, c'est qu'ils ont un grave problème de personnel. Et donc notamment quand c'est des grosses structures, là où j'allais, donc du coup un abattoir que j'ai rebaptisé Mercure pour anonymiser et le lieu et les gens, parce qu'on pourra en parler, mais je voulais vraiment raconter la vie privée et les expériences hors usine des gens que j'allais rencontrer. Et donc cette usine emploie 3000 personnes. Dans ces 3000 personnes, il y a des sous-traitants, il y a des tâcherons, et il y a 30 à 40% d'intérimaires. Et en fait, il y a un roulement gigantesque des intérimaires qui ne font que arriver, s'enfuir, arriver, s'enfuir. Et en fait, il y en a qui, voilà, il y en a qui partent carrément à la première minute, il y en a qui vomissent, il y en a qui partent à la première pause, il y en a qui partent à la première semaine, au premier mois. Et donc, en fait, c'est un chaos en termes de gestion. Tous les abattoirs sont confrontés à ce chaos. Et donc, du coup, le roulement énorme des intérimaires fait que quand on trouve le moyen d'arriver dans ce flow, de se mettre dans le flow, l'embauche après est très facile. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, une fois que j'ai repéré mon abattoir, je fais le tour des boîtes d'intérim qui sont pas loin. Comme ça, je me dis, vu la taille de l'abattoir, c'est obligatoire que cette boîte-là va proposer des postes. Je trouve une annonce sur Internet, ils donnent pas le nom de l'abattoir, mais le poste, le lieu de la boîte d'intérim me font penser que c'est probablement pour l'abattoir que je vise, donc j'appelle la boîte d'intérim, mais je dis voilà, c'est bien pour cet abattoir-là. Ils me disent oui, tout à fait. Et je dis oui, voilà, parce que moi je vais m'installer à côté, j'aimerais peut-être bientôt devenir éleveur, et du coup, en attendant de trouver un métier et de m'installer dans la région pour 2, 3 ou 4 ans, parce qu'il y avait quand même marqué qu'ils cherchaient quelqu'un au long terme, j'aimerais travailler en abattoir pour me former. Et donc ils sont assez enjoués, je leur transmets mon CV d'ancien maçon, j'étais censé avoir été maçon en région parisienne. J'avais pris ce CV parce que j'avais une couverture avec une entreprise de maçonnerie avec laquelle j'avais bossé l'été. J'avais été manœuvre et qui pouvait dire oui, il était chez nous avant. Et
aussi parce que c'est un métier dur, j'imagine, maçon, et voilà. Ça rassure l'entreprise d'intérim.
C'est clair qu'il fallait que j'ai un profil de manuel et que je sois crédible pour arriver et demander à postuler en abattoir et pouvoir tenir la cadence, justement. Donc, tout de suite, l'abattoir très motivé. Oui, son profil nous intéresse. Quand est-ce qu'il peut commencer? Quand est-ce qu'on peut le voir? Et c'est comme ça que là, je mets en place le reste. À ce moment-là, une fois que je vois que c'est bon et que ça va le faire, je commence à régler la problématique du logement dans la ville de l'abattoir pour justement être à côté. Et parce que l'idée, c'était de changer d'identité vis-à-vis de l'abattoir, mais aussi vis-à-vis des collègues, afin de pouvoir briser même l'omerta qu'il y a entre les salariés d'abattoir et le reste de la société. Parce que voilà, quand on demande à quelqu'un ce qu'il fait et qu'il dit qu'il travaille en abattoir, on ne lui pose pas de deuxième question. Donc voilà, l'idée, c'était aussi d'aller briser le tabou même entre les collègues.
Jusqu'ici, tout se passe donc au mieux pour Geoffrey. Il a choisi son sujet, trouvé son abattoir, s'est rapproché de la bonne agence d'intérim. Arrive le premier test déterminant, car si l'abattoir est en recherche permanente de main-d'œuvre, il doit tout de même s'assurer que ses recrues sont à la hauteur. Et inversement, Geoffrey doit être certain d'avoir choisi le bon lieu.
Et normalement, ce qui se passe souvent, c'est que tu fais un rendez-vous et t'es embauché quasiment le jour même. Donc moi, comme je voulais vraiment être sûr que c'était le bon lieu pour moi, parce que voilà, après j'ai quand même ciblé des grandes interrogations. Quel est le rapport des ouvriers à la mort, des animaux? Est-ce que psychologiquement, ils sont atteints? Ils en parlent? Quel est aussi le taux de dérapage, d'actes de cruauté ou simplement d'erreurs dues à la chaîne? On a vu dans une des vidéos publiées par L214 que par manque d'effectifs, un agneau s'était retrouvé cartelé sur une chaîne. Là, c'était pas un acte de cruauté, c'était vraiment... les ouvriers étaient dépassés, ça allait trop vite, c'était chaotique. Je voulais comprendre tout ça, je voulais vraiment partir avec des questions un peu naïves, un peu ouvertes, et voir. À partir de là, je voulais quand même être sûr que j'aurais accès à la tuerie, c'est-à-dire le lieu où, dans un abattoir, on appelle ça la tuerie, où les animaux passent de vie à trépas, c'est-à-dire qu'on on les étourdit. En l'occurrence, avec les bovins, c'est un pistolet qui leur envoie une tige en fer dans le crâne, jusqu'à 7 cm de profondeur. Et ensuite, on les accroche à l'envers et puis on les saigne, on les égorge. Et une fois que suffisamment de sang est parti, il y a un phénomène qu'on appelle l'anoxie. Il n'y a plus d'oxygène qui arrive au cerveau et c'est à partir de là qu'on considère que l'animal est mort. Ça, c'est la tuerie. Et c'est le lieu tabou de l'abattoir. C'est le lieu que va filmer L214. Alors évidemment, parfois, ils filment aussi les transports ou la bouverie, d'autres lieux où les animaux sont vivants, où ils dorment avant d'être abattus, mais c'est ça le lieu le plus tabou. Donc pour ça, il fallait que je le visite. Parfait, j'ai le droit à une visite. Donc je fais ma première visite.
Ça, c'est le jour où tu rencontres tes futurs patrons potentiels. C'est ça, la première visite.
Exactement. Et donc, on va dire que le critère d'embauche dans un abattoir, c'est de faire visiter l'abattoir et de se faire observer. Est-ce qu'on a peur de la vue du sang? C'est quasiment la question centrale. Ce dont j'avais été prévenu, évidemment, dans ma pré-enquête, soit par L214, soit par des ouvriers d'abattoir que j'avais pu joindre, soit par tout simplement les livres qu'on peut trouver sur le sujet. Et on m'emmène à la tuerie et on m'observe, tandis que moi, j'observe des vaches se faire tuer. Et on me demande plusieurs fois, ça va, on me teste vraiment. C'est-à-dire qu'on me laisse pas juste observer et intérioriser, quoi. On essaye vraiment de voir ce que j'en pense. Et donc, j'étais assez blindé parce que je m'étais préparé. Je voulais vraiment me remémorer tout ce que j'étais en train de voir, les paroles, etc. Donc, j'étais tellement concentré qu'en fait, même si tous mes sens étaient en alerte, les odeurs, le bruit, il y a des scies géantes, ça fait des pchit partout parce qu'il y a des vapeurs, il y a du métal qui cogne sur du métal, les ouvriers sont couverts de sang sur le ventre, sur la tête. Ben voilà, c'est un univers qui est très particulier et qui met tous les sens en alerte.
Les alarmes
pour dire que voilà, à chaque minute il y a une vache qui est tuée et on avance d'une carcasse et d'un poste. Et en fait, bonne surprise pour moi, la tuerie, ce qui n'est vraiment pas le cas maintenant dans la plupart des abattoirs, est visible du reste de la chaîne. Elle n'est pas séparée du reste de la chaîne. Et donc du coup, je me dis, bon, bah, où que j'atterrisse sur la chaîne, l'avantage qu'il y aura, c'est que, parce que c'est impossible que je me retrouve à la tuerie. Il faut une formation spéciale, spéciale. C'est vraiment une formation un peu prétexte, c'est juste 7 heures de QCM. Mais par contre, il faut l'avoir, il faut avoir travaillé 11 mois dans l'abattoir. Enfin voilà, c'est très compliqué d'atterrir à la tuerie, mais si elle est accessible, elle est visible, j'essaierai de me balader, d'aller parler aux gens, etc. Donc je me dis bingo.
Courte pause dans l'atelier, restez avec nous et avec Geoffrey Le Guilcher. Il continue son récit dans quelques instants.
RFI.
L'émission que vous allez écouter est une rediffusion.
Atelier des médias. Il y a un peu plus d'un an, le journaliste indépendant Geoffrey Le Guilcher a décidé de s'infiltrer dans un abattoir pour raconter de l'intérieur les conditions de travail d'une usine à tuer les animaux. Après plusieurs semaines d'approche et de préparation afin de se faire embaucher incognito, arrive son premier jour à Mercure. Mercure, c'est le nom fictif du lieu où a travaillé Geoffrey dans le livre Steak Machine qui relate cette enquête-aventure.
Mon premier jour, quand j'arrive pour travailler à l'usine, c'est particulier parce que là, je me dis, j'ai beaucoup de questions dans ma tête qui tournent. Est-ce que je vais y arriver ? Tout le monde me dit que le rythme est infernal, qu'il y a énormément d'accidents du travail. J'avais eu des amis qui s'étaient intéressés à la question, des amis journalistes des abattoirs il y a longtemps, et qui m'avait dit oui, il faut que tu sois suivi par un psy. J'avais un oncle d'Orléans qui lui a vraiment travaillé dans les abattoirs, qui a laissé un doigt. J'avais vraiment en me renseignant, j'avais pris conscience que j'allais dans un milieu quand même très particulier.
Et juste pour préciser, déjà j'imagine, si c'était pas dans un but journalistique que tu y allais, si c'était vraiment ton premier jour de travail, ça doit être très angoissant. Mais toi, en plus, t'avais la couche il faut que je fasse vrai en plus, quoi. Donc ça fait deux choses à gérer, extrêmement compliquées et extrêmement angoissantes en même temps.
Alors c'est vrai que je m'en souviens très bien, en allant vers l'usine, bon, j'habitais à 800 mètres, 1 km je crois à peu près, et j'arrêtais pas de répéter à haute voix Albert, pour vraiment essayer de me familiariser avec mon nouveau prénom, ce qui est très dur parce que c'est vraiment sûrement l'une des seules questions à laquelle on répond avec bonjour, au revoir, sans réfléchir. Voilà, y a une partie du cerveau qui a un mode automatique. Et d'un autre côté, c'est vrai que c'était une difficulté et c'était une angoisse. Et en même temps, je pense que ça me permettait, par rapport à quelqu'un qui vient juste travailler et découvrir ce milieu hostile la première fois, d'avoir une vraie raison de tenir. C'est-à-dire que je voulais tenir, quoi. Il était hors de question. Je pouvais avoir des faiblesses. Et d'ailleurs, j'avais peur en y allant, hein, donc voilà. Mais il fallait que je me rappelle à chaque fois pourquoi j'étais là et que je voulais tenir. Alors, il y en a qui ont d'autres raisons. Il y en a, c'est pour gagner leur croûte, c'est pour payer une facture. Voilà, ils n'ont pas le choix non plus. Mais disons que vu le taux de gens qui repartent, alors qu'on peut imaginer que s'ils viennent ici, ils ont besoin de travailler et voilà, d'avoir un salaire, je voulais quand même à tout prix me blinder. Et j'arrive à l'usine. Je me concentre, je monte à la salle de pause. Il y a un poste de douane.
Un poste de douane à l'entrée.
Moi, j'ai appelé ça le poste de douane, mais parce qu'il y a une barrière et quelqu'un des deux côtés, vraiment comme un poste de douane, comme une frontière. Et tout le reste de l'usine est grillagé. Et après, on rentre là-dedans. Voilà, il faut imaginer Mercure, c'est sur 2 millions de mètres carrés. Il y a une grosse fumée qui s'échappe d'une cheminée. Il y a une odeur dès qu'on est sur le site. Tous les bâtiments sont gris clair, un peu un gris de camouflage comme les avions de chasse. Il y a au moins plus de 10 grands bâtiments qui font la taille d'hypermarché, avec des parkings autour de chaque bâtiment qui font la taille de parking d'hypermarché. Et on peut se balader en voiture tranquillement pendant 10 minutes, un quart d'heure en se perdant, quoi. Donc je savais où j'allais, à la chaîne Boeuf que j'avais visité la première fois. Je vais me garer. Je monte à la salle de pause. Comme d'habitude, je demande à voir un chef dès que je croise un ouvrier. Là, je vois quelqu'un d'autre comme moi habillé en civil avec un chapeau et avec une dent toute noire, je m'en souviens. Et qui me dit « Ouais, t'inquiète, moi j'ai déjà travaillé ici, pose-toi avec moi, on boit un café, ils vont pas tarder à arriver. » Et là, la personne commence à me dire « Bon, tu vois, là, ils annoncent une canicule. » Ils venaient d'annoncer une canicule, c'était en plein début de mois de juillet en Bretagne, donc. Et il me dit, tu vas voir, là on commençait un peu à transpirer déjà, il me fait, tu vas voir, ça va être horrible, il faut vraiment que tu essayes de, on va te dire qu'il faut que tu tiennes la première à la deuxième semaine, mais pour moi il faut tenir au moins les 6 premiers mois, sinon tant que t'as pas tenu les 6 premiers mois, tu peux pas savoir si tu vas résister, etc. Donc voilà, il me faisait monter la pression un peu comme ça, et donc je me concentrais, je lui posais quelques questions quand même pour voir d'où il venait. Normalement il était musicien, il était venu s'installer là pour aider un grand-père qui était malade, et en même temps il s'était retrouvé à bosser à l'usine. Et là, d'un coup, une chef rentre dans la salle et me fait « Toi, en me regardant, comment tu t'appelles ?» Je me retourne, je fais « Geoffrey. Elle fait Geoffrey, mais je croyais que tu t'appelais Albert. Et là je fais merde. Et je fais non, en fait je m'appelle Albert, mais l'agence d'intérim s'est trompée, elle a mis Geoffrey parce qu'elle s'est trompée avec mon prénom. Je commence à partir d'un truc, et là je me dis ok, j'arrête de trop m'embourber. Je lui dis tiens, bah à propos, je sors de mon sac une feuille que m'avait donnée la dame au poste de douane à l'entrée de l'usine, qui en gros je devais faire signer par un chef une feuille avec la plaque d'immatriculation de ma voiture pour qu'on puisse me laisser rentrer après avec un badge tous les matins. Et du coup ça détourne la conversation, je suis tout rouge, mais en même temps elle a tellement pas le temps qu'elle passe à autre chose. Et voilà, je me suis dit bon, tu prépares depuis des mois une infiltration, première difficulté que t'as, tu donnes ton vrai prénom, c'est vraiment mal barré.
Plus de peur que de mal, la chef en question ne relève pas la bourde de Geoffrey alias Albert et lui tend une fiche de poste détaillant les tâches que va devoir réaliser le nouveau venu. Il est affecté à ce qu'on appelle le parage dans le jargon de l'abattoir.
Et en gros, l'idée c'est, j'ai un couteau en main, je suis sur une nacelle qui monte de, on va dire, 50 cm à 3-4 mètres de haut, et je la gère avec mes pieds, monter, descendre, et avec mes mains j'ai un couteau, dans la main droite j'ai un couteau, dans la main gauche j'ai une côte de maille pour que quand le couteau dérape il ne sectionne pas les doigts, et par-dessus tout ça évidemment on a des gants en plastique pour des raisons d'hygiène, et je dois dégraisser une demi-carcasse de vache par minute, voilà. Et donc en fait elle m'emmène, elle me dit, il faut faire attention aux projections dans les yeux de merde et de sang. Voilà. Et je me dis, ah ouais, c'est un poste qui a l'air sympa, quoi. Et elle m'emmène sur la chaîne, et là, je commence avec un formateur qui est très jeune, qui a 22 ans, et qui commence à me montrer comment il travaille. Et là, je me dis, mais comment il fait ça aussi vite, quoi? Une gestuelle très précise, ça monte, ça descend, je comprends même pas comment il monte et il descend sa nacelle au début. Je me retrouve avec un jet de vapeur dans la tête, c'est le stérilisateur de couteau à ma droite sur lequel j'étais appuyé, et je mets bien une heure à comprendre ce qui se passe, quoi. Et finalement j'identifie un peu ses gestes, je me rends compte qu'il y a environ 6 ou 7 zones différentes sur la carcasse où il monte et il descend et où il travaille, donc ça fait à peu près 10 secondes par zone sur une minute. Et dans ces 10 secondes, il faut à peu près en utiliser que 7 ou 8 pour avoir le temps de monter, descendre, laver tes couteaux, laver tes mains entre chaque vache. Donc je me dis, ok, et finalement, au bout d'un moment, il commence à me laisser m'essayer sur une zone. C'est chaotique, je mets 40 secondes, voire une minute à faire la zone, j'entaille la viande, ce qu'il faut pas faire, normalement, faut toucher que le gras. Et ainsi se passe, on va dire, mon premier jour. Voilà, je sors du premier jour, j'ai à peine travaillé, je dirais... un dixième du temps que je dois faire normalement sur la chaîne. J'ai même pas fait une seule vache entière et je suis lessivé. J'ai des cloques qui ont poussé sur la main gauche à cause de la côte de maille parce qu'on m'a tellement jeté sur la chaîne qu'on m'a pas expliqué qu'il fallait mettre un gant en Kevlar en dessous. Et ça va durer une semaine. Donc pendant une semaine, je vais avoir une côte de maille qui va me râper les doigts à gauche. Après, heureusement, des collègues ouvriers vont me dire « Non, mais on t'a pas expliqué, mais voilà ce qu'il faut faire. » Il y a une vraie solidarité sur la chaîne, donc ça c'est assez utile. Parce que voilà, les chefs, c'est pas qu'ils sont forcés foncièrement mauvais, c'est qu'ils ont le temps de rien gérer, quoi. Tout va trop vite. Du coup, à la fin de mon premier jour, je suis chaos debout, quoi, hagard. Vraiment, je rentre, j'avale un truc et je m'effondre. Enfin, je prends quand même mes notes parce que chaque jour, j'ai pris environ 2 heures de notes après le boulot. C'est ce qui m'a permis de ressortir de l'expérience avec environ 550 à 600 000 signes. Donc pour les gens qui sont pas journalistes, c'est l'équivalent d'un gros livre, alors que je savais qu'on voulait en faire un petit livre à la fin. Donc j'avais beaucoup de matière, de reportages, de dialogues, de scènes, voilà, tout ce qui m'était arrivé au jour le jour, un énorme journal de bord tenu chaque jour, parce que si je prenais du retard, vu qu'il y avait 2 heures déjà de retranscription, il faut imaginer qu'une semaine de retard après, pour la rattraper, j'aurais même pas eu de week-end, quoi. Et sachant que le week-end, vu que j'avais aussi pour projet de rencontrer les ouvriers le week-end, j'avais aussi des notes à prendre tous les jours, même le week-end. Donc il est hors de question que je prenne du retard. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup servi après dans la rédaction. Mais voilà, donc voilà pour le premier jour.
La démarche de Geoffrey Le Guilcher pose toutes sortes de questions sur la position du journaliste, sur la pertinence ou non d'avancer masqué dans une enquête. Nous allons aborder ces choses-là avec lui, mais ce qui ne fait aucun doute dans ce type de démarche, c'est le courage. Mettre sa vie entre parenthèses, renoncer à son nom, s'exposer, mentir, quelles que soient les motivations, il faut de la force et de la détermination pour entreprendre et accomplir ce type de projet. Un courage d'autant plus grand qu'en rejoignant cette chaîne de travail, le jeune journaliste s'expose à un des métiers à la fois les plus durs et les plus emblématiques de l'ère industrielle.
Dans ma recherche, je m'étais intéressé aux premières chaînes qui donc étaient nées de façon massive et industrielle à Chicago, même si bon, la toute première chaîne pour les puristes est née à Cincinnati. Disons que les grands abattoirs, le déploiement d'usines faramineuses pour débiter un maximum d'animaux toutes les 10 ou 15 secondes pour les porcs et toutes les minutes pour les vaches, déjà il y a un siècle aux États-Unis, c'est à Chicago. Et en fait, Henry Ford, dans ses mémoires, explique que c'est en voyant l'organisation militaire des abattoirs de Chicago, qui dépèce les animaux jusque dans leurs moindres détails pour commercialiser leurs os en poudre, leurs tendons pour faire des engrais, leur graisse pour faire des bougies, des bonbons ou carrément des crèmes ou des cosmétiques. Tout ça avec une personne qui travaille sur des postes différents et tout, qui avance toutes les 20 ou 30 secondes. Ça naît dans les abattoirs. Henry Ford fait l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de démonter un animal, on va monter une automobile. Et petit à petit, depuis un siècle, dans la plupart des usines, les robots ont remplacé les humains sur beaucoup de postes parce qu'ils sont plus rapides. Seulement, une pièce d'automobile est toujours la même, un animal est toujours différent. Et de ce simple constat naît une difficulté supplémentaire, c'est qu'on ne peut pas remplacer pour l'instant l'être humain sur la chaîne par un robot. Il faut imaginer ce que c'est que des animaux. Il peut y avoir sur la chaîne un veau qui a quelques mois, il peut y avoir un taureau immense, dit hors gabarit tellement il est grand, il peut y avoir une vache laitière qui est arrivée en fin de vie, et on appelle ça une vache de réforme, elle passe à l'abattoir principalement pour faire du steak haché parce que sa viande n'est pas terrible. Chaque vache, chaque taureau, chaque veau est différent, n'a pas le même gras, n'a pas la même musculature, et du coup, c'est très compliqué et de dégraisser, mais même à dépecer. Tout est différent pour chaque animal. Et donc, il faut des êtres humains pour s'occuper des animaux.
Avec cette question, il y a un côté tabou, il y a un côté caché qui est très naturel hein, à ce type d'activité. C'est logique que les abattoirs n'aient pas, oui, que les patrons n'aient pas envie qu'on voit ce qui se passe, parce que j'imagine que ça découragerait beaucoup de gens de manger de la viande, ou en tout cas ça poserait question. Toi, tu te retrouves donc dedans. Comment tu vis cet aspect-là des choses auquel tu as essayé de te préparer, j'imagine, au maximum, mais tu pouvais pas anticiper comment tu allais vivre ça au quotidien?
Oui, alors ça faisait partie des grands critères qui justifiaient l'immersion, c'était d'aller comprendre ce tabou. Pourquoi est-ce que les abattoirs se murent comme ça? Il y a des raisons historiques. À la fin du 19e siècle, on décide de créer des abattoirs. Avant, on égorge les animaux en pleine ville. Ça posait des problèmes d'hygiène et aussi on avait peur que ça donne des mauvaises idées aux hommes. C'est-à-dire que le spectacle sanglant d'égorgement, les autorités publiques se disaient « Oula, est-ce qu'on va pas créer des tueurs d'humains à force de montrer ce spectacle à tout le monde ?» Donc on crée les abattoirs, des lieux mis en périphérie où ce qu'on appelait à l'époque la tuerie se retrouve donc enfermé dans un bâtiment et devient une partie de l'usine. Ça, c'est le premier tabou originel, on va dire l'acte de naissance des abattoirs. Ensuite, vient se greffer une industrialisation tardive en France. Si elle avait déjà eu lieu aux États-Unis à la fin du 19e, elle arrive vraiment en France après la Seconde Guerre mondiale. Et même encore un peu après. Donc c'est dû à, on va dire, des supermarchés qui ont dopé la consommation de viande depuis 30 ou 40 ans, d'un côté, et qui, de l'autre côté, ont dopé les structures d'agriculture encouragées par les autorités, par l'Union européenne. Voilà, il n'y a pas que les supermarchés, mais disons que les acteurs qui profitent de ce système et qui le tiennent, qui décident du cours, du prix du kilo de porc ou de bœuf, ce sont les supermarchés, et quand ils ne sont pas directement propriétaires des élevages ou de certains abattoirs. Et donc, ils peuvent jouer à la fois sur la consommation, pas en faisant de la pub, jusque dans les cantines scolaires ou par des promotions. Et de l'autre côté, ils peuvent carrément sécuriser leur approvisionnement, voire l'augmenter, voire le diminuer. Enfin, c'est vraiment eux qui tiennent la chaîne alimentaire telle qu'elle existe aujourd'hui. Et donc, les abattoirs se sont construits à l'intérieur de ce tabou originel. Et il faut bien comprendre une chose, c'est qu'un abattoir n'est pas un lieu prévu pour, devancer la souffrance animale. On peut l'imaginer, ça peut paraître un peu bizarre de dire ça. N'empêche qu'il y a des règles européennes depuis, environ 8 ans, qui imposent de faire attention à ce qu'on appelle le bien-être animal, c'est-à-dire que l'animal ne doit pas souffrir au-delà de ce que les normes exigent. Et donc, mais c'est très récent. C'est-à-dire que depuis un siècle et demi, on tue des animaux à la chaîne sans se préoccuper de ça. Donc évidemment, les abattoirs se sont adaptés un petit peu sur le tas, pour ne pas dire à l'arrache, et toujours dans le tabou. Donc en fait, personne ne savait ce qui se passait avant que l'association L214 aille lever ce premier tabou, qui est celui de la souffrance animale dans les abattoirs et de la maltraitance, qui sont deux choses qui peuvent paraître similaires, mais un peu différentes quand même. D'un côté, il y a ce que l'outil industriel génère comme souffrance, et de l'autre côté, il y a ce que les hommes parfois peuvent ajouter quand ils pètent un câble ou quand ils sont dépassés par la cadence. Mais ça, c'est que le premier maillon de la chaîne des tabous. Un abattoir, c'est vraiment une succession de couches de tabous. Et derrière, en fait, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre ce qui se passait. En fait, je me suis aperçu qu'il y avait un deuxième tabou, c'était la souffrance humaine dans les abattoirs. Les ouvriers sont vraiment soumis à des cadences qui les brisent. Qui les brisent très vite pour les plus faibles et qui les brise sur le long terme pour les plus forts, c'est-à-dire qu'à 45-50 ans, là ils sont foutus à ce moment-là quand ils ont fait 20 ans ou 30 ans d'usine. Et ça, c'était quelque chose que l'immersion m'a permis de découvrir, c'est-à-dire qu'au lieu de passer du temps à essayer de faire parler des ouvriers d'abattoir, là j'étais sur la chaîne, je voyais les nouveaux arrivants, les plus anciens, ceux qui étaient arrêtés, ceux qui avaient été changés de poste. J'ai même assisté à un ouvrier qui venait d'apprendre qu'il était foutu, comme il disait lui-même, et qu'il allait bientôt être en arrêt définitif, et à la direction qui essayait de repousser ça, qui contestait l'origine professionnelle de sa maladie, et tout ce que ça génère, on peut imaginer tout ce que ça génère symboliquement pour l'ouvrier qui était dédié à l'usine corps et âme. Et en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les cadences n'ont pas changé, même si l'outil s'est un peu amélioré, et évidemment qu'il y a plus d'hygiène et qu'il y a des normes, etc., qui sont ajoutées, mais disons que le cœur nucléaire de l'abattoir, à savoir abattre un certain nombre d'animaux par jour, à des cadences industrielles, lui, n'a pas changé. Et donc, j'ai découvert que les industriels s'étaient servis quelque part du tabou originel des abattoirs qui, en gros, sont cachés en périphérie ou en campagne, pour développer un outil vraiment où ni l'humain ni l'animal n'est au centre des préoccupations. Et on peut se dire, oui, mais ça, c'est le cas dans plein d'entreprises. Oui, mais peu d'entreprises donnent la mort. Dans peu d'entreprises, on est baigné dans le sang toute la journée. Et peu d'entreprises confrontent deux êtres vivants, quelque part. C'est-à-dire l'animal d'un côté, l'homme de l'autre. Et en fait, plutôt que de voir des bourreaux dans les ouvriers d'abattoir, comme on pouvait le penser avant de la part de certains militants, ce qui n'est pas le cas d'L214. L214 n'a jamais pointé les ouvriers comme le problème principal, même quand certains dérapent, mais justement les conditions dans lesquelles on les met. Les mettre dans cette situation absurde d'abattre... il faut imaginer un poulet toutes les deux secondes. C'est un poulet toutes les deux secondes quand on est dans une usine à poulets, un porc toutes les 20 secondes et une vache toutes les minutes. Réfléchissez à, même si on n'a qu'une tâche à faire, tuer l'animal ou enlever tout son gras ou découper ses pattes arrière ou ses pattes avant, tout a été calculé pour qu'on ait à peine le temps de le faire, évidemment. C'est la logique de la chaîne. Donc, confronté au vivant, à l'animal qui résiste, aux imprévus, aux différentes races d'animaux, ça donne du chaos, en fait. Ça ajoute du chaos dans une machine qui se voudrait parfaite. I hear something saying, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ah, 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 ah. L'atelier des médias. Ziad Malouf.
Question un peu piège. Là, quand on choisit de s'infiltrer dans un milieu, on est à la frontière du journalisme, puisque une des règles supposée ou une des règles évoquées du journaliste, c'est de toujours avancer des visages découverts, que les gens sachent qu'on est en train d'enquêter sur eux. Là, c'est encore peut-être plus compliqué puisque tu finis par raconter un peu le quotidien, la vie privée de personnes que tu as rencontrées et à qui tu as menti en fait sur ton identité, donc qui t'ont accepté, qui t'ont invité chez elles, etc., sans savoir que tu étais journaliste. Et là où ça peut poser problème aussi, c'est que des personnes qui travaillent dans des abattoirs, contrairement à la tuerie dans un abattoir ou au lieu, on peut les rencontrer à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on peut accéder par des syndicats, des choses comme ça. Alors, c'est pas la même expérience que quand on est leur collègue, mais on peut rencontrer si on prend le temps et tout. Comment tu gères et comprends tout ça, toi ?
Bah, tout d'abord, si j'ai menti sur mon prénom, j'ai pas menti sur la personne que j'étais vis-à-vis des gens que je rencontrais. Donc ça, je pense que ça a aidé aussi après, c'est-à-dire que j'étais vraiment moi-même, quoi. Quand j'ai dit que j'arrêtais, ils s'y attendaient pas, ils comprenaient pas trop au départ parce que j'avais dit que j'étais là pour le long terme et qu'ils étaient satisfaits de mon travail. Et ça, c'était important pour moi parce que ça validait aussi le fait que j'avais vraiment joué le jeu à fond et que j'étais pas venu juste pour recueillir des témoignages sans me préoccuper de vivre l'expérience moi-même. Et d'un autre côté, voilà, la vie en dehors de l'usine, dès le premier week-end, on me file du LSD dans un festival avec un collègue. Et à partir de là, quand on est dans ce genre d'expérience, alors pas parce qu'on a pris du LSD, mais parce que on sort du cadre de l'usine, on va entendre et on va nous raconter des histoires qu'on n'entend pas à l'usine. Et donc, du coup, je pense que ça a beaucoup joué dans l'après, dans le fait que j'ai pas eu de leur part de reproches, ou j'ai eu des blagues, ah ouais putain en fait t'étais journaliste, t'es venu chez moi, il y en a un qui m'a dit t'aurais pu me dire quand même, je fais bah ouais, mais il me fait mais tu me faisais pas confiance, je fais non mais c'était pas toi, c'est déjà quand on était chez toi on était entre plusieurs collègues, s'il y en a un qui le sait et que ça s'ébruite, voilà, après moi tout ce que j'ai, toute ma démarche elle est vantée et c'est fini quoi. Donc il m'a dit « Ah ouais, peut-être, t'as raison ». Et enfin voilà, il n'y avait pas de vrai reproche en mode « me parle plus jamais, tu nous as trahis ». Parce que justement, et je pense dans le message qui en ressort, et dans l'anonymisation, et dans le fait que j'étais vraiment moi-même. Donc c'est vrai qu'il est toujours préférable d'avancer non masqué. Mais on peut employer certaines méthodes du moment que c'est fait, on va dire, dans un but d'intérêt public, c'est-à-dire que ce qu'on va chercher est vraiment une information d'intérêt général et qui n'est pas, y compris juridiquement, y compris dans la déontologie journalistique, quelque chose qui a un vrai intérêt pour avoir une information qu'on n'a pas autrement. On peut effectivement rencontrer des tueurs autrement.
Des tueurs au sens des gens qui travaillent dans les abattoirs.
Par exemple, il y a le film, un très beau film, Les Seigneurs, qui sort au cinéma, où ils vont faire parler des tueurs. Mais même eux, qui avaient accès à une usine, on sent que, la difficulté la plus grande était d'accéder à la tuerie aussi. Et le tabou ne vient pas uniquement d'une censure de l'usine, il vient aussi d'une auto-censure. C'est très compliqué pour des gens qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer sur leur métier, même avec leurs amis, de développer devant une caméra ce qu'ils pensent de ce métier-là. C'est ça qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que il y a beaucoup de gens qui racontent qu'une fois qu'il y a eu les vidéos d'L214, ils ont eu des gros problèmes dans leur famille. On a fait un documentaire qui a été réalisé par Virginie Villard sur Envoyé Spécial, qui revenait un peu déjà sur les conséquences des vidéos d'L214 sur les ouvriers qui avaient été filmés. Et beaucoup disaient, ma famille, mes enfants, ma femme découvrent ce que je faisais vraiment à l'usine. Et en fait, des gens qui étaient là depuis 20 ans. Il faut vraiment avoir ça en tête. C'est autant c'est partagé entre collègues, autant vis-à-vis de l'extérieur, on devance l'espèce de dégoût, de peur, de la mort, du sang, et du coup on donne pas de détails. On donne vraiment pas de détails. Et donc du coup, c'était justifié à tellement de niveaux cette infiltration, au niveau animal, au niveau humain, au niveau du tabou de l'usine, au niveau du tabou mis par les ouvriers eux-mêmes. Au niveau du tabou dont se sert l'industrie pour empêcher qu'il y ait plus de transparence dans les abattoirs, que ça me posait pas au niveau journalistique. Alors là, j'étais vraiment, j'avais pas de doute. C'était effectivement au niveau humain que c'était un peu plus compliqué à gérer sur la fin, parce que je suis vraiment devenu pote avec certains de mes collègues. Mais à chaque fois, des super retours sur le livre. Et s'est mis à affluer des témoignages d'ouvriers d'abattoirs aussi. Alors c'est très étonnant parce que d'un côté, on a reçu beaucoup de témoignages d'ouvriers d'abattoirs qui se sont mis carrément à faire la promotion du livre sur leur Facebook ou même à vouloir organiser des conférences avec nous. On dit toujours oui. Et de l'autre côté, les milieux plus antispécistes, militants de la cause animale, pareil, se sont mis à défendre le livre en mode, bah, voyez, on n'est pas, on défend pas les animaux contre les hommes. Les abattoirs broient des animaux et des hommes. Et donc, en fait, ce message-là, qui est un peu le résultat de mon reportage et de mon enquête, de plus opposer les hommes et les animaux, a très bien pris. Et en fait, paradoxalement, on n'a eu personne en face qui a critiqué la démarche. Vraiment personne. C'est-à-dire que l'industrie, par exemple, les industriels ne se sont pas du tout manifestés. Alors que bon, il y a eu quand même, voilà, il y a eu quand même un peu de presse. Et, de l'autre, et à l'inverse, on a été soutenus par des milieux qui d'habitude s'opposent.
Steak Machine de Geoffrey Le Guilcher est publié aux éditions Goutte d'Or. Je vous encourage à lire ce petit livre très bien écrit qui plonge son lecteur dans le quotidien de celles et ceux qui travaillent dans cet abattoir de l'ouest de la France. Merci à Geoffrey et Clara pour leur accueil. L'atelier cette semaine a été réalisé par Simon Decreuse, préparé par Constance Léon, Camille Deloche, Marie-Stéphanie Servos et moi-même, Ziad Malouf. Si vous souhaitez bloguer avec nous sur Mondoblog et raconter de belles histoires de votre quotidien, n'hésitez pas à vous porter candidate, candidat. Notre sélection est ouverte jusqu'à la fin du mois de mars. Renseignements sur mondoblog.org. Salut à toutes et à tous.